Bienvenue dans Ainsi va la vie, le podcast ressources pour parler sans tabou de la mort et du deuil. Et oui, pourquoi éviter ces sujets alors qu'ils nous concernent tous? Je suis Gaëlle Guigny, praticienne de shiatsu et accompagnante du deuil, curieuse et passionnée par les rencontres qui nous font grandir. Dans chaque épisode, je reçois un ou une invitée qui nous partage son histoire, son expérience, son regard. Ces témoignages nous donnent des clés pour mieux surmonter les pertes dans nos vies et traverser nos deuils en conscience. Nous abordons ensemble des sujets essentiels, profonds, délicats, qui bousculent parfois, mais qui toujours nous rappellent à notre humanité. Ainsi va la vie, c'est le podcast qui nous rend plus vivants. Aujourd'hui, je vous propose une rencontre avec le collectif des morts de la rue. Nous avions évoqué l'action de ce collectif avec Sandrine Chapelle, des services funéraires de la ville de Paris, dans le précédent épisode. Donc n'hésitez pas à aller l'écouter. Et j'ai eu envie d'en savoir plus. Cécile Rocard et Christelle Estella, qui sont coordinatrices du collectif, m'ont reçue dans leurs locaux à Paris. J'ai également pu discuter avec deux bénévoles, Marianne et Isabelle, et de fil en aiguille, l'idée d'aller assister à l'accompagnement des funérailles au cimetière de Thiers s'est concrétisée. C'est donc un épisode atypique que je vous propose, qui va certes parler d'isolement, d'identité, mais surtout d'engagement, de mémoire et d'hommage. Bonne écoute! Bonjour Cécile Roca et Christelle Estella, merci de me recevoir dans vos locaux. Alors j'aimerais savoir, pour démarrer cet épisode ensemble, quand est-ce que le collectif a été créé et quelles en sont ses missions?
Alors le collectif Les Morts de la Rue a été créé en 2002. Donc c'est un collectif composé à la fois d'associations et de personnes particulières. Il a trois objectifs principaux. Le premier, c'est de faire savoir que quand on vit à la rue, on meurt prématurément. Le deuxième, autour de la dignité des funérailles. Et le troisième, autour de l'accompagnement des proches en deuil. Les actions sont nationales pour une très grande partie, notamment pour tout ce qui est interpellation sur la mortalité. Et on fait tout un travail épidémiologique sur la mortalité des personnes sans domicile, qui est au niveau national. Nous donnons aussi des formations au niveau national pour mieux anticiper le deuil et mieux accompagner. Depuis 2004, en convention avec la ville de Paris, nous accompagnons les morts isolés. Donc, ce sont les morts isolés, donc là uniquement de Paris. D'autres collectifs en France, gérés par d'autres associations, accompagnant leurs morts dans leur commune.
Quand vous parlez de personnes isolées, pour que ce soit clair pour les auditrices et les auditeurs, vous parlez de quel type d'isolement, pour être très concret ?
On parle principalement de personnes décédées à Paris. Ça peut être une personne vivant seule dans son appartement, âgée ou pas. Ça peut être quelqu'un qui est de passage, dont personne n'a réclamé le corps. Ça peut être quelqu'un qui meurt à la rue. Ça peut être quelqu'un qui meurt dans la rue en allant à la boulangerie. Ça peut être quelqu'un jeune, âgé. Voilà, c'est un peu tout type de public, tout type de personnes, en fait, décédant à Paris, dont le corps n'a pas été réclamé par des proches.
Et ça représente combien de décès à Paris par an ?
Pour vous donner une idée, donc, en 2020, il y a eu 340 morts isolés à Paris. C'est plus important que les années précédentes, notamment probablement à cause du Covid, qui a d'une part empêché des personnes d'être présentes de manière simple, et d'autre part, les rapatriements au pays étaient plus compliqués. Enfin, il y a eu différentes raisons et un surcroît de mortalité.
Alors, est-ce que vous pourriez nous retracer la chaîne d'intervention à partir du moment où un décès est constaté ?
Le décès est constaté par un médecin, si c'est un décès sur la voie publique ou bien qui est emmené pour raison d'hygiène, la police est présente aussi et mandate les services funéraires de la ville de Paris que vous avez rencontré pour transporter le corps. Dans ce cadre-là, la plupart du temps, à l'Institut médico-légal, parce qu'il y a une enquête sur le décès, pratiquement à chaque fois, quelqu'un est mort sur la voie publique ou si le corps est retrouvé dans un appartement sans qu'il y ait de tiers. Une fois que la personne est à l'institut médico-légal, il y a un examen du corps qui a lieu pour savoir s'il y a une cause externe ou pas, et puis l'enquête de police. Pendant ce temps-là, le commissariat a fait aussi son enquête pour identifier la personne. Donc il y a tout ce travail qui est en cours jusqu'à ce qu'un jour le permis d'inhumer soit accordé et que si quelqu'un de la famille est présent, il s'en occupe. Et si aucun membre de la famille n'a été retrouvé, les démarches sont faites pour que la personne parte en convoi pris en charge par la ville du décès. Et à ce moment-là, les services funéraires sont prévenus, le cimetière et nous. Et donc, du coup, les funérailles s'organisent à ce moment-là.
C'est à peu près pareil pour les hôpitaux, parce que des gens aussi meurent à l'hôpital. Donc, l'état civil fait une recherche des proches. Si personne n'est venu visiter la personne de son vivant ou personne n'est venu à la chambre mortuaire, la même décision est prise, c'est celle de finir par accompagner, enterrer ces personnes dont personne ne sait... ne s'est soucié, j'allais dire, sur les premiers, j'allais dire presque le premier mois du décès. Voilà. Donc, ils font des recherches comme la police de leur côté et voilà. Mais s'ils n'ont trouvé personne ou si personne n'a réagi ou si les gens n'ont pas souhaité, la famille un peu éloignée n'a pas souhaité s'occuper de l'enterrement, dans ce cas, la personne est prise en charge par la ville.
Peut-être encore une précision à donner, que ce soit ou la police ou les hôpitaux, ils ne recherchent quand ils recherchent, parce qu'il faut qu'ils en aient le temps, il n'y a aucune obligation de rechercher personne. Quand ils recherchent, c'est les personnes qui vont prendre en charge les funérailles. C'est-à-dire les ascendants, descendants, conjoints. Ils ne vont pas chercher les frères et sœurs, les cousins, les amis, les voisins, etc. Il y a que des fois, il y a des personnes qui ont un très riche réseau relationnel, mais qui n'est absolument pas ni recherché, ni trouvé par les différents services concernés. Donc ça, c'est partie des réalités qui fait qu'on accompagne des personnes qui, en fait, ne sont des fois pas si isolées que ça, mais dont l'entourage n'a pas été retrouvé.
Je pensais que c'était assez répandu, les contrats obsèques qui permettent de prendre des dispositions avant le décès et de préparer au mieux les obsèques et les funérailles.
Les drames de tous ces contrats obsèques où il n'y a pas de fichier central qui existe, ce qui signifie que dans la très grande dispersion des personnes qui gèrent ces contrats, même si la personne gardait sur sa table de nuit la carte avec son contrat obsèque, elle n'est pas emmenée avec le corps du défunt quand il est retrouvé un certain temps après sa mort. Et rien ne sera réalisé. Même les fois où la personne avait sa carte sur elle et qu'elle était confiée au commissariat, le commissariat ne gère pas ça. Et donc, du coup, la personne a fait des démarches. Pour nous, ça, c'est un vrai scandale, vraiment. Enfin, c'est-à-dire qu'il devrait y avoir un fichier central, comme il y en a pour le refus du don d'organes. Un fichier central, on dit que ça devrait être facile à faire. Et ça fait partie des choses qui paraissent assez aberrantes, que ça n'existe pas.
Oui, c'est un chantier sur lequel il faudrait se pencher. Ça paraît incroyable que ça n'existe pas. Et donc, pour revenir à votre intervention, vous êtes sollicité en bout de chaîne, c'est bien ça?
Nous, on est contacté quand ils trouvent que la personne est restée assez longtemps non réclamée. Et du coup, les services funéraires sont mandatés. Enfin, il y a une autorisation d'inhumer qui est faite. Le service social ou l'administration qui s'en occupe dans l'hôpital fait la demande d'un convoi pris en charge par la ville collectif. Et à ce moment-là, tout est mis en œuvre. Et nous, on est prévenus parce qu'on fait partie de la boucle, vu qu'on a cette convention avec la ville pour être présent.
Et donc, sur la base d'informations qui vous sont transmises sur les défunts, vous effectuez des recherches complémentaires.
En effet, on reçoit donc la liste des personnes que nous allons accompagner. Et à chaque fois, il y a une recherche qui est mise en route de notre côté.
On reçoit l'information à peu près une semaine avant, le nom des personnes qu'on va enterrer. Et nous, on reçoit le mardi ou le mercredi ces informations pour un enterrement qui a lieu la semaine d'après, le mardi, mercredi, à peu près. Donc nous, on a, si c'est d'un point de vue très pratique, on a mercredi, jeudi, vendredi et un peu lundi pour essayer de trouver de l'entourage. Voilà. On a un temps très court. Mais on pourrait très bien ne pas faire de recherche, on enterrerait les gens quand même. C'est-à-dire qu'on irait en disant, avec le minimum, comme quand on n'a rien, avec le minimum, c'est-à-dire... nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance, date de décès, arrondissement de décès. Voilà ce qu'on aurait pour enterrer. Mais parfois, on enterre de manière aussi digne des gens quand on ne sait rien que quand on sait. Mais on préfère avoir quelques informations et puis essayer de trouver des proches quand même pour qu'ils puissent venir à l'enterrement. Si ce n'est pas le jour même, en tout cas pouvoir venir, être averti du décès et au moins pouvoir venir après.
Et vous, comment vous vous y prenez pour faire ces recherches? Parce qu'en amont, ça n'a pas été fructueux. Donc, comment vous faites-vous?
Il y a d'une part, on est en lien avec les services administratifs de la PHP, qui, lorsque quelqu'un est mort sur la voie publique, il a pu passer par l'hôpital et laisser le nom de quelqu'un à prévenir. Dans ce cas-là, par ce biais-là, on a des contacts. Il y a également des personnes qui ont des noms un peu rares. Et dans ce cas-là, on recherche par le biais des réseaux sociaux, des copains d'avant, de différents circuits de cet ordre-là. Des fois également, certains commissariats nous donnent quelques indications sur oui, on a été prévenu par la gardienne, donc on a le numéro de téléphone, enfin ça peut arriver, parce que là on appelle la gardienne qui des fois a d'autres contacts. Des fois on apprend que la personne vivait dans une résidence, on apprend par exemple quelqu'un qui était passé à l'hôpital, il y avait son adresse qui était notée, on apprend que c'était une maison relais, que c'était une pension de famille, que c'était une résidence de personnes âgées. Donc à ce moment-là, ça nous donne des contacts qu'on va joindre pour essayer d'en savoir un peu plus. Donc on fait ce travail un peu systématiquement. Il y a une collègue aussi depuis quelques temps qui appelle régulièrement pour les personnes âgées les services sociaux de l'arrondissement s'occupant des personnes âgées. Donc on trouve des fois une aide ménagère, etc. Donc il y a un vrai boulot. Et vu le nombre de décès, ça prend un temps colossal. C'est devenu une action qui nous prend beaucoup, beaucoup de temps. Mais ça nous paraît être assez important. C'est-à-dire que plutôt que d'enterrer des personnes dont on ne connaît rien qu'un prénom et un nom, une date de naissance et une date de décès, que ce soit des proches qui nous parlent d'eux, qui nous racontent leur histoire, qui éventuellement soient présents. Des fois, par le biais des réseaux sociaux, on retrouve un frère, une sœur qui du coup dit « Mais attendez, mais moi je m'occupe des funérailles » et du coup la personne sort du convoi collectif parce que on retrouve, parce que des proches veulent s'en occuper.
Parce que quelqu'un qui est isolé, on peut penser que la famille ne s'en occupe pas, mais on a parfois le cas de familles qui, quelques jours avant le décès, ont un lien. Et en plus, les vacances arrivent et il s'écoule un mois ou deux sans que... c'est pas un manque de suivi, c'est juste qu'ils ont eu la personne en juillet. La personne est morte en juillet et ils ne savent pas qu'elle est morte. Et après, ils apprennent le décès en août. Ils sont surpris. Je comprends pas, je lui ai parlé deux jours avant qu'elle meure. Voilà, parfois c'est juste un manque de contact dans un dossier administratif ou dans un téléphone qui permet pas de joindre la famille, alors que la famille a pris des nouvelles, pas forcément tous les jours, mais a pris des nouvelles quand même. Et voilà, et récemment, une famille a repris en charge les funérailles qui n'avaient pas encore eu lieu, heureusement, pour quelqu'un. Donc c'est des gens... le mot « isolé », je dirais plutôt effectivement sans ressources financières ou sans ressources humaines au moment du décès, en tout cas.
Et pour les personnes sans domicile fixe, j'imagine que c'est encore plus compliqué. Comment vous faites pour essayer de trouver des informations sur leur identité ?
Alors quand on découvre, parce qu'on a l'acte de décès ou qu'on découvre que cette personne, son adresse administrative correspond à un foyer ou justement une domiciliation administrative, là on se dit que cette personne est sans doute sans domicile ou un hôtel social. À ce moment-là, on fait appel à notre réseau associatif, à nos partenaires, pour savoir si, en donnant le nom de cette personne, savoir s'il serait connu d'une structure ou d'un établissement voilà, qui suit les personnes sans abri. À partir de là, on essaie de faire tout ça avant l'enterrement, parce que c'est très important, parce que bien souvent, les structures peuvent être en lien avec de la famille, ou au moins avec des amis, ou au moins les travailleurs sociaux souhaitent peut-être participer à l'enterrement. Donc ça, c'est un... Pour les funérailles, c'est important de... On active un autre réseau, en tout cas, pour celui vraiment qui s'occupe de la rue, quoi.
Oui, alors peut-être dire aussi que assez souvent, on apprend le décès des personnes de la rue, non pas par ce biais-là, oui, mais par le biais d'un corps est retrouvé sur la voie publique, on l'apprend, ça peut être par une administration, ou bien alors une association qui est très inquiète, un tel a disparu, il le voyait tous les jours, là il ne le voit plus du tout, qu'est-ce qui s'est passé ? Ou bien encore une association accompagne un tel qui est mort à l'hôpital, comment on fait pour les funérailles ? Et dans ce cadre-là, ce sont la plupart du temps des funérailles individuelles, donc également prises en charge par la ville, parce qu'il est rare que les personnes aient les ressources suffisantes. Donc il y a des formulaires à remplir pour ça. Nous, on aide les associations à le faire. On accompagne les associations dans ce travail-là.
Je suis vraiment très impressionnée par ce travail que vous réalisez, qui est énorme et qui est essentiel. Et ça me fait penser à la citation qu'il y a sur votre site internet qui dit « En honorant les morts, on agit pour les vivants ». Et c'est vraiment ça, vous honorez les uns et les autres et vous remettez en fait en quelque sorte ces morts singuliers dans la société, dans leur appartenance à l'humanité, alors même qu'ils sont ou qu'ils semblent abandonnés de tous.
Merci de dire singulier et pas anonyme, parce que effectivement, ce ne sont pas des morts anonymes. Ils le sont de nous, parce qu'on ne les connaît pas, mais ils ne sont pas anonymes, en effet. Ils sont singuliers comme chacun, voilà. Mais en effet, ils sont connus de plein de monde. Ils ont une vie, voilà.
Et c'est vrai qu'avant qu'on arrive, donc il y a longtemps, hein, c'était des convois. Alors, ils étaient encore plus par convoi, ils étaient 8. Le poids est écrit au marqueur sur les cercueils pour mettre les plus légers en haut, les plus lourds en bas dans le camion. C'était de la manutention. Il n'y avait aucune ritualisation les accompagnant. Et en fait, c'est vrai qu'on se dit que si on ne donne que le cadre de la vie est important, enfin, c'est-à-dire si toute la vie on dit que les gens sont importants, mais qu'on les met un peu comme si leur mort n'avait aucune importance, c'est une manière de gommer la vie aussi, c'est l'importance de chaque vie. Donc il nous semble qu'on est donc à des bouts de ce cadre de la vie, on est témoin de la manière dont ça se passe. On travaille beaucoup aussi avec la ville autour de la dignité de ces funérailles. La dignité, la manière d'inhumer les personnes, c'est un travail constant en fait, c'est une veille aussi, hein. On se rend bien compte, puis ça donne du sens à leur travail, à tout le personnel qui travaille sur place là-bas, qui sinon est une sorte de non-sens, hein. Et on essaie de rester dans cette vigilance de c'était quelqu'un, on est des humains qui accompagnons des personnes dans cette fraternité républicaine, enfin c'est cet ordre-là. Et on ne peut pas se permettre d'une baisse d'attention, parce qu'il s'agit de la dignité de tous. Enfin, je veux dire, on reconnaît les premiers êtres humains, entre autres, à la manière dont ils enterraient leurs morts. Et on peut reconnaître notre risque d'inhumanité si on ne fait pas attention à cette humanité jusque dans la mort. Donc je pense que la veille est quelque chose qui est... bon, à la fois c'est très matériel, c'est concret, c'est se déplacer, c'est se mettre de la terre sur les pieds, c'est de prendre du temps, de piétiner, c'est du très concret comme ça. Mais c'est en même temps quelque chose, je pense, d'extrêmement profond, qui nous ramène à la très grande chaîne des humains depuis la nuit des temps. Enfin, vraiment, qu'il y a quelque chose qui nous grandit, d'être attentif à cette humanité, et que ça risque d'être déshumanisant de ne pas le faire.
Vous me disiez que le cœur de votre intervention, de votre mission, ce sont les morts de la rue. Combien de décès est-ce que ça représente en moyenne chaque année ?
En 2020, sur 340 personnes, 66 avaient vécu sans domicile. À notre connaissance, enfin, dans ceux qu'on a trouvés, on n'a pas forcément trouvé tout le monde. Donc c'est quand même un nombre qui n'est pas colossal. Enfin, c'est quand même ces personnes-là. Et après, donc notre action principale rejoint ces 66-là, sur les 340. Les autres, franchement, c'est le drame de la solitude. L'isolement. Ils ont dit que ça serait peut-être d'autres associations qui devraient le faire davantage que nous. Enfin, c'est un service public qu'on rend, mais c'est comme ça. On pense aussi que c'est le drame des administrations qui font plus ou moins bien leur travail. Notamment pour les contrats obsèques et aussi pour une recherche qui n'est pas aboutie. Manque de temps, manque de moyens. Enfin, c'est pas leur en vouloir, hein, parce que on est avec plusieurs services de police complètement débordés, avec des services hospitaliers complètement débordés. Donc, on leur en veut pas, mais on dit, on leur laisse pas les moyens d'aller au bout en allant rechercher vraiment l'entourage des personnes.
Et juste, j'ajoute quelque chose, c'est qu'on parle de ceux pour qui on retrouve des choses, des proches et tout ça, mais il y a aussi une grosse partie de ces personnes isolées pour lesquelles on ne retrouve rien. On fait des recherches. Mais nous non plus. On y consacre quelques jours, on apprend que l'enterrement a lieu la semaine d'avant, et parfois on a des recherches vaines. Hein. Ça arrive bien souvent que ces personnes isolées, on sache juste la date de naissance, le lieu de naissance et l'arrondissement de décès. Mmh. On a parfois quand même, bien souvent aussi, ne crions pas victoire, on n'a pas toujours un entourage.
Ouais, du coup, leur liste est publiée donc sur le site de la ville de Paris. Nous, on la reprend sur les réseaux sociaux parce qu'on a remarqué que le moteur de recherche marchait mieux sur certains réseaux sociaux que sur le site de la ville de Paris. Donc, du coup, on publie là-dessus. Et il y a des familles qui se manifestent. Les familles et les proches, presque une fois par semaine, on a une personne qui nous joint par rapport au décès de quelqu'un qui a déjà été enterré.
Ça va être un collègue de travail, un ami d'enfance, une sœur, un neveu, une personne de la famille assez éloignée, qui est contactée par un généalogiste, qui se demande, tiens, qui a pu mourir dans ma famille avec qui j'ai pas de lien. Ça peut être, voilà, ça va être différentes personnes. Plusieurs membres d'une même famille qui vont nous appeler, parce que d'un seul coup, ils sont plusieurs à découvrir que leur proche est mort, et ils vont être plusieurs à nous appeler, en disant, mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors, s'ils appellent un week-end et qu'on n'a pas pu leur répondre, ils ont fait déjà quelques démarches en voyant que la personne, finalement, elle est décédée. Chez elle, ils auront appelé le commissariat, ils ont fait déjà quelques démarches. Et s'ils tombent sur nous tout de suite, ils vont dire, j'ai vu le nom de mon frère ou de ma grand-tante ou d'une amie d'enfance, je fouillais des papiers, d'un seul coup je suis retombée sur son nom, j'ai tapé son nom pour voir, comme on fait parfois avec nos amis d'enfance, pour voir ce qu'ils sont devenus. Et ils voient que d'un seul coup, ressort que cette personne a été enterrée à Thiers, accompagnée par le collectif Les Morts de la Rue. Ils sont curieux, ils appellent. Alors c'est pas toujours des gens qui sont dans une... Ils sont quand même dans une émotion, même pour une amie d'enfance, enfin, même si ça fait 30 ans qu'ils l'ont pas vue. Et voilà, ils nous appellent. Et nous, là, c'est là où... après, les accompagnants vous raconteront, mais c'est là où on leur transmet le compte-rendu de l'enterrement s'ils le veulent. Tout le monde veut savoir de quoi sont morts les personnes. Nous, on n'a pas cette information parce que c'est privé. Mais voilà, donc selon le degré de parenté ou d'amitié, certains peuvent faire certaines recherches sur les causes du décès, ça concerne que la famille. Mais en tout cas, on oriente, on les guide un peu sur... on leur dit où les personnes ont été enterrées, s'ils veulent y aller. On explique aux familles comment faire s'ils veulent avoir des précisions sur les causes de décès ou voilà, sur ce qui est privé. Pour certains, comment récupérer un corps quand il est quand c'est assez récent, s'ils veulent faire une exhumation. Enfin, pour plein de choses, on est ce lien, en sachant que, contrairement à ce que croient les gens quand ils nous appellent, nous n'avons pas payé les funérailles, ce n'est pas nous. On accompagne, on fait ce lien, et on a un compte-rendu d'enterrement qui leur permettra, le jour, si ça leur dit d'aller au cimetière, de repérer l'endroit, de savoir quel texte a été lu, de savoir ce qui a été dit, quel temps il faisait, enfin tout ça, voilà, c'est le récit des accompagnants que vous aurez, et voilà comment s'est déroulé l'enterrement, et quelles étaient peut-être les dernières circonstances de leur vie. Enfin, on peut toujours leur dire que c'est le gardien qui a prévenu, que cette personne voilà, est décédée chez elle, c'est des choses qui se trouvent dans les actes de décès qui sont accessibles à tous. Mais voilà, donc on crée ce lien. Mais en tout cas, on est contacté assez régulièrement, comme dit Cécile, au moins une fois par semaine, ça c'est sûr.
D'accord. Et donc votre temps de recherche à vous dépend vraiment du moment où vous allez être informé.
Selon les fois, ça va être au mieux une dizaine de jours avant, ça c'est les coups de bol. Et puis des fois, c'est 3 jours avant et on va avoir moins d'informations. Si nous, on a une bénévole qui est libre, un ou une bénévole qui est libre pour faire des recherches, que nous, on est des fois pris par d'autres choses toutes les deux. Donc c'est en fonction de la possibilité aussi de pratique.
J'ai un souvenir, moi, de quelqu'un, pour une anecdote. Cécile, en fait, ça arrive qu'on fasse ça quand on a un petit peu le temps et que le nom est rare. Il n'y a plus tellement de monde sur les pages jaunes, mais ça arrive quand même qu'on tape sur les pages blanches un nom et il ressort 10 personnes. Et ça arrive que Cécile se dise « Allez, j'appelle tout le monde, on verra bien. » Donc on essaie les 09 qui sont écoutés plus par personne, parce que voilà, et qu'on découvre un jour. Et voilà, j'ai eu un jour un monsieur qui a appelé en disant « Je viens d'apprendre la mort de mon frère parce que vous m'avez... » Enfin, c'est-à-dire qu'on ne lui a pas annoncé directement son répondeur, mais comme c'était le collectif Les Morts de la Rue, il a eu un doute. Et c'est un message qui m'a fait écouter en direct pendant que je l'avais au téléphone. C'était Cécile qui parlait. J'ai reconnu sa voix. C'était un message de 2 ans avant. C'est-à-dire que pendant 2 ans, il n'a pas écouté son 09, tout simplement parce que moi-même, je ne l'écoute pas. Et Cécile avait laissé ce message comme quoi, est-ce qu'il était apparenté à monsieur un tel? C'était le collectif Les Morts de la Rue à Paris. Et voilà, s'il voulait bien nous rappeler. Il a compris, il nous a rappelé en disant, voilà, comme quoi, on jette des bouteilles à la mer aussi avec ces messages. L'enterrement était passé depuis 2 ans. Pareil pour les réseaux sociaux, on laisse un petit message à quelqu'un qui vit en Serbie, et ben, il ne nous répond pas tout de suite, puis peut-être un jour il nous répondra, on ne sait pas. Parce que les messages partent un peu dans des endroits quand on n'est pas amis sur les réseaux sociaux. Voilà. Vraiment pour les anecdotes, et parfois les gens nous répondent tout de suite.
Puis des fois c'est aussi quelqu'un à l'adresse où il vivait, il y a uniquement 8 ou 9 personnes qui habitent dans l'immeuble, enfin en tout cas qui ne s'en seraient pas, on se dit « allez, on les appelle ». Donc on appelle tous les voisins de l'endroit où habitait la personne, et de temps en temps on apprend vraiment quelque chose. Enfin, je me rappelle d'une jeune femme qui était très désespérée, qui avait fait des tentatives de suicide violentes dans sa cage d'escalier en mettant du sang partout, et elle recevait des clients, enfin, se prostituait un peu, etc. Donc c'est une voisine compliquée, où il y avait des pétitions contre elle et tout, mais
Il y a eu un couple dans cet immeuble qui était extrêmement touché par la détresse de cette jeune femme, qui l'avait accueillie, qui a parlé d'elle avec beaucoup d'humanité, qui du coup ont transmis quelque chose qui a pu être lu à ses funérailles et qui a pu du coup être retransmis à la famille qui a pris le décès longtemps après de son côté, qui nous a rappelé après. C'était bon, c'était des personnes qui ont des destins un peu compliqués. Et voilà. Et donc oser un peu aller chercher comme ça à l'aventure.
Alors, je vais faire en sorte de résumer pour que, voilà, synthétiser un petit peu toute l'information que vous nous avez partagée. Donc, vous avez vraiment deux champs d'action pour les recherches et les accompagnements. D'un côté, ça concerne les morts isolées et qui sont une action périphérique que vous menez à la demande des services funéraires de la ville de Paris. Et puis, les morts de la rue, qui sont vraiment votre mission de base. Donc pour ces derniers spécifiquement, pour ces personnes sans domicile fixe, on retrouve leur nom sur votre site internet. Mais est-ce que vous êtes aussi sur d'autres réseaux sociaux ?
On a ouvert une page Facebook qui est dédiée à ces personnes-là et qui est sur laquelle, là, on met le nom des personnes. Qu'on les a accompagnées ou pas, c'est national, c'est pas parisien, ça correspond vraiment à l'objet de notre association. Donc, notre site, c'est un peu notre identité, donc c'est là-dessus.
Pour les morts de la rue, on marque pas toujours le nom de famille parce qu'on nous demande pas toujours de le mettre. Donc ça nécessite, pour les personnes qui pensent que la personne vivait à la rue et qu'elle était peut-être morte, de faire une sorte de recherche sur plusieurs années sur notre site, tandis que les morts isolés, parfois il suffit, je sais pas comment font les gens, mais en tout cas ils tapent souvent le nom, le prénom, nom et date de naissance ou année de naissance, et c'est là bien souvent qu'ils tombent sur la page d'un réseau social connu, et là ils le trouvent. Tandis que si vous cherchez un frère qui vit à la rue, qui est peut-être mort ou qui est disparu, si le nom de famille n'apparaît pas, bien souvent on nous demande, ah, je vois le nom de Laurent, est-ce que c'est lui ? Il a à peu près le même âge. Et dans ce cas-là, on nous appelle pour savoir si c'est Laurent qui est mort à Cannes, si c'est bien lui, on nous donne un nom de famille, et là on leur dit si c'est ça ou pas. Mais c'est vrai que la démarche est un peu différente. Ça émerge pas de la même manière sur le web.
En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces informations précieuses qui, j'espère, auront éclairé les personnes qui nous ont écoutées et qui, elles-mêmes, pourront les relayer à leur tour. On pourrait, c'est vrai, passer des heures à parler de votre engagement et de vos actions si importantes pour honorer et rendre visibles toutes celles et tous ceux qui ont vécu parmi nous. Et donc, si vous souhaitez retrouver le collectif, eh bien, vous pouvez vous rendre sur le site mortdelarue.org. Maintenant, je crois que je vais aller rencontrer Marianne pour qu'elle me parle de son engagement en tant que bénévole. Bonjour Marianne.
Bonjour.
Alors, qu'est-ce qui vous a amené au collectif Les Morts de la Rue ?
J'ai vu un reportage à la télévision tard le soir. Ça m'a interpellée. Je suis allée regarder sur Internet ce qu'ils faisaient. Et ça m'a intéressée, et puis donc je suis venue les voir, et puis je me suis donc proposée pour faire les accompagnements à Thiers, entre autres.
Et vous faites ça toutes les semaines, ou comment vous vous organisez ?
Je fais un accompagnement par mois. Je pense que c'est suffisant, parce qu'émotionnellement, quand même, c'est pas important, mais disons qu'on a une charge émotionnelle quand même à chaque fois, et je pense qu'une fois par mois, ça va. Bon, entre autres, je fais aussi d'autres activités au sein du collectif. Mais à Thiers, j'y vais une fois par mois. En général, il y a quatre décès ce jour-là. C'est le mardi. On va les chercher à l'Institut médico-légal. On se recueille un moment devant chaque cercueil. Ensuite, on part avec les services funéraires à Thiers. Ensuite, on procède à l'inhumation. Et en amont, on a préparé un discours. Et devant chaque cercueil, on fait un hommage à la personne qu'on enterre. Et évidemment, on essaye de personnaliser au maximum ce qu'on dit à cette personne-là, parce qu'on parle à cette personne-là, donc c'est un moment très intime. Il faut être avec la personne, quoi, à ce moment-là.
Et une fois que vous avez rendu votre hommage au défunt ou à la défunte qui a été inhumée, qu'est-ce qui se passe ?
Pour chaque enterrement, on attend que la terre soit remise. En amont, on a acheté des fleurs. Pour chaque cercueil, on a acheté un pot de fleurs. On attend que tous les cercueils soient bien de nouveau recouverts et on s'en va. Une fois que c'est terminé, on remplit, on fait un compte-rendu où on essaie de mettre le plus d'informations, c'est-à-dire quel temps il faisait et quel texte, on joint les textes qu'on a lus, on donne notre impression, de façon à ce que si un jour, il y a quelqu'un de la famille ou d'amis qui veulent avoir des renseignements sur la cérémonie, on puisse y dire, bah, ce jour-là, bah, il pleuvait, il faisait très beau, c'était nuageux, ça s'est passé de telle façon, tel texte a été lu par les gens, les bénévoles qui étaient présents, de façon à ce qu'il y ait voilà, au moins une transmission.
Et vous êtes à plusieurs bénévoles quand il y a quatre défunts ?
En général, on est deux. Il y a deux personnes qui accompagnent et il y a en général quatre cercueils. Donc, on se répartit les hommages et on fait un papier en fonction de chaque personne. Et donc, comme les enterrements se font les uns après les autres, et ben, quand c'est notre tour, on vient faire notre hommage.
Alors, comment vous vous y prenez pour être inspiré, pour préparer cet hommage à quelqu'un que vous ne connaissez pas, pour qui vous avez peut-être pas du tout d'informations ou peu ? Comment vous faites ?
Alors, chacun a ses méthodes et chacun fait comme il le sent. Moi, pour ma part, qu'est-ce que je fais ? Bon, je reprends déjà l'historique. Enfin, on reprend en général le nom de la personne, son âge, où elle habitait, où elle est décédée, pour bien dire qu'on est bien devant le bon cercueil déjà. Et ensuite, on fait un peu comme on sent. On peut parler quand on a des informations, parce que parfois, on a très peu d'informations. Par exemple, moi, la semaine prochaine, je fais un enterrement. Dans les personnes dont je vais m'occuper, il y a une personne sous X. Donc là, on va peut-être avoir pas grand-chose. Donc, alors là, c'est comme on sent. On peut broder sur la profession, sur le lieu où elle vivait, peu importe. Et en règle générale, moi, ce que je fais, j'ajoute un poème ou un texte de chanson que je peux adapter en fonction de l'événement. Il faut faire un petit peu de recherche quand même, à minima, quoi, pour trouver les textes, tout ça. Une fois, j'ai pris une chanson sur... c'est un monsieur qui était très isolé, donc j'ai pris une chanson Mélancolie d'Yves Duteil, qui correspondait bien à ce monsieur qui était très, 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 très seul. On essaye de faire pour le mieux et de rester aussi dans la simplicité, quoi. C'est pas... principal, déjà, c'est qu'on soit là, et au moment où on le fait, on est avec la personne. Voilà.
Puisque Marianne allait au cimetière de Thiers la semaine suivant notre rencontre, je lui ai demandé à elle ainsi qu'au collectif et à la deuxième bénévole qui s'appelle Isabelle l'autorisation de me joindre à elle. Et elles ont gentiment accepté, donc je les ai retrouvées dans ce cimetière qui est très impressionnant, très végétalisé. On a l'impression de rentrer dans un parc en fait avec des arbres majestueux. C'est vraiment un très beau lieu. Et donc j'ai retrouvé Marianne d'abord et puis Isabelle qui nous a rejoint. Ah, c'est un grand cimetière, hein, je ne ouais. connaissais pas du
c'est
tout.
Très, 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 très grand.
On est là.
Ouais, la conservation.
Et on va là, mais je ne sais pas dans quel...
Dans quel carré. Donc, on va dans la division des terrains communs du Jardin de la Fraternité. Voilà. D'accord. Et il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Ouais, je ne sais pas où il est, parce que comme ils ont rajouté, on est en pleine terre, je ne sais pas où il est le nôtre. Je sais pas si ceux-là, c'est les caveaux. Ça, je sais, c'est les caveaux. Par contre, nous, c'est de la pleine terre, donc je ne sais pas où il est exactement.
Alors, nous avions rendez-vous à 10h, et une fois sur place, on attend. Et je ne sais pas pourquoi, alors je pose la question à Marianne. On attend quoi ? C'est que le personnel soit...
Que le personnel soit disponible, parce qu'il y a d'autres enterrements, il n'y a pas que nous sur le cimetière, donc il y a d'autres cérémonies, il faut en plus que les tombes soient creusées. Si elles n'étaient pas creusées la veille. Donc, bah voilà, on attend notre tour, tout simplement. Voilà. Et c'est prévu vers 11h environ, je crois.
Isabelle, la deuxième bénévole, nous a rejoint. Et comme nous avons du temps, nous discutons et je l'interroge sur son engagement dans le collectif. Et alors vous, comment se fait-il que vous avez décidé de rejoindre le collectif ?
Alors... Moi, c'est une histoire de vie, hein, comme chacun, qui m'a fait prendre conscience qu'on pouvait dégringoler très vite hein, et que si on n'avait pas la famille autour, ça pouvait être très vite problématique. Et je me suis promis, j'ai promis à la vie que si on s'en sortait, je rendrais. Voilà. Et donc, je me suis dit, je vais faire quelque chose pour aider les SDF. Et puis un jour, j'ai vu l'émission Infrarouge qui parlait du collectif. Et quand je l'ai vu, ça a complètement résonné. Et je me suis dit, mais c'est ça, voilà. C'est ça que j'ai envie de faire. Donc, j'ai pris contact avec le collectif. On m'a tout expliqué et j'ai eu envie de participer. C'est mon premier accompagnement, voilà.
Et vous vous sentez comment ?
Émue. En plus, j'ai perdu ma maman il y a maintenant 3 mois. Donc, pour moi, ça résonne encore. Voilà. Mmh. Et impliquée. Même si on ne les connaît pas, on a bien conscience que quelque part, on est auprès de personnes. Quoi. Voilà. Mmh. C'est comme si quelque part, on les tenait encore par la main pour les emmener... Enfin, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, Marianne, et moi
c'est, on nous accompagne dans un dernier moment de leur
vie. Voilà. Ce que je disais à Marianne ce matin, je prends conscience que la véritable misère, elle est absolument pas pécuniaire ou... Elle est vraiment de l'ordre émotionnel, quoi, et relationnel. Parce que quand on a vraiment personne, il n'y a plus de sens à sa vie, en fait. Et la misère, elle est vraiment là. Pour moi, ne pas avoir quelqu'un pour aller jusqu'au bout de notre aventure et d'être seule, c'est... Pour moi, c'est là vraiment la véritable misère, quoi. C'est d'une tristesse infinie, quoi.
S'engager auprès des morts, c'est pas commun, et puis ça peut en dérouter plus d'un et plus d'une. Alors j'ai demandé à Isabelle et à Marianne comment ont réagi leurs proches, leur entourage, sur ce choix qu'elles ont fait.
Moi, on me l'a carrément dit, mais pourquoi tu t'occupes des morts plutôt que de t'occuper des
vivants ? Et moi, ce que je réponds, c'est que je suis la dernière maille du maillot. C'est-à-dire que il y a eu toute la vie de la personne, tout ça, et arrivé à un moment X, au moment de sa mort, cette personne est pas toute seule. Et ben moi, je suis là. Donc, je suis la dernière maille. Et puis, c'est tout. Il faut bien finir le tricot. Voilà.
C'est une belle image.
Non, mais voilà. Et tout. Donc, chaque personne, quelle qu'elle soit, a son importance. Et on n'a pas à avoir de jugement de valeur. Parce que la personne qui t'a dit ça, elle a émis un jugement de valeur sur ta démarche et on n'a pas de jugement de valeur.
Mais des gens qui vont s'occuper des vivants, il y en a plein. Enfin, c'est plus vendeur que de s'occuper de quelqu'un qui est parti, quoi. Et c'est justement là, je trouve, où l'humanité a toute sa place. C'est respecter la personne jusque dans la mort, quoi. Pour moi, c'est un degré encore plus prégnant. Alors, bien sûr, il faut s'occuper des vivants, c'est pas ce que je dis. Mais je pense que les gens qui sont dans l'accompagnement comme ça de la personne décédée, il y en a moins quand même, parce que ça dérange.
C'est sûr que dans notre société, la mort, c'est pas un sujet qui mobilise vraiment. Mais bon, je profite du temps que nous avons ensemble toutes les trois pour mieux connaître les défunts qu'elles accompagnent aujourd'hui. Là, du coup, pour les 4 personnes qui sont là aujourd'hui, vous avez réussi à avoir quelques informations.
Un petit peu, tout, enfin, léger. Hein.
Moi, je sais rien. Jackie, je sais rien. Enfin, moi, je me suis occupée de... Je les appelle par leur prénom, moi. Non, Jackie, je sais rien. On se connaît juste sa date, son adresse, sa date de naissance, sa date de décès, son adresse, mais on n'a rien. Et le collectif n'a pas pu avoir d'infos sur les voies par rapport aux voisins. J'ai regardé sur Internet où il habitait.
Alors, l'histoire du monsieur, moi, m'a touchée. Je ne sais pas grand-chose. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il a été hospitalisé pendant 1 an, puis qu'il a été placé certainement dans un service de gériatrie ou quelque chose comme ça, et que ce monsieur n'a pas supporté, il s'est enfui, et qu'on l'a retrouvé... On l'a retrouvé décédé sur son lieu de domicile. Donc c'est comme s'il était revenu chez lui pour décéder.
Vous avez acheté des fleurs et vous les avez choisies comment, les vôtres ?
Alors moi, je les ai choisies en pensant fort à chacune des 2 personnes que j'accompagne et en leur demandant de m'aider dans mon choix. Voilà.
Et alors, c'est quoi ?
Eh bien, ça a été deux chrysanthèmes. Un très pâle pour une dame cambodgienne qui s'appelle Kim. Et l'autre, un rouge plus soutenu, un bordeaux pour le monsieur. Voilà, je ne sais pas, j'ai été attirée par ces deux couleurs. Voilà. En tout cas, je les ai choisis en leur demandant de m'aider dans le choix.
Et toi, Marianne ?
Alors, moi, j'ai pris un cyclamène pour la dame. J'ai pris rose pâle. Je me suis dit, bon, c'est une dame de 50 ans. Je me suis dit que la couleur allait bien. Et puis, pour le monsieur, j'ai pris une bruyère. Là, ça m'a plu. La plante m'a plu. Je me suis dit, tiens, ça va changer. Et je lui ai pris ça. Voilà.
Peut-être qu'il va falloir que je m'avance, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ?
À 50, ouais.
Nickel. Bon.
Isabelle et Marianne sont donc montées dans le véhicule des pompes funèbres qui les emmènent vers le terrain. Et moi, j'ai marché dans ces grandes allées plantées d'arbres. J'ai appris depuis qu'il y avait 5875 arbres de 65 essences différentes. Et pour tout vous dire, j'étais très, très émue à ce moment-là. Parce que toute ma démarche avec ce podcast était concentrée en cet instant, en cette matinée. Rendre hommage aux humains, les accompagner jusqu'au bout, informer, être là, pour tous et toutes. Ce fut vraiment une marche émouvante au son des chants d'oiseaux et sous les rayons du soleil qui commençaient à déchirer les nuages. Isabelle et Marianne ont accepté que j'enregistre leurs hommages et je les en remercie. Alors je dédie ce moment qui clôt cet épisode aux personnes décédées auprès desquelles nous avons été ce jour du 26 octobre 2021.
Monsieur Pierre Oscagnan, vous êtes né le 8 août 1933 au Benas, en Ardèche, et vous êtes décédé le 15 décembre 2020 à Paris. Vous habitiez un appartement dans le 13e arrondissement de Paris. Je ne sais rien de vous, monsieur, si ce n'est que vous avez été hospitalisé pendant un an, puis que vous êtes allé après pendant un mois dans une résidence service des Girondières. De ce qu'on a appris, vous ne vous y plaisiez pas et vous vous êtes enfui de cet établissement. J'imagine très bien votre détresse et votre tristesse. Vous auriez été retrouvé mort dans votre appartement dans le 13e. Vous avez fait en sorte de terminer votre vie dans un lieu familier dans lequel vous deviez vous sentir en confiance. Aucune famille ne s'est manifestée. Vous êtes parti dans une solitude infinie. Mais je suis là, aujourd'hui, pour vous avec Marianne du collectif des morts de la rue, mais également le collège des pompes funèbres pour vous accompagner en ce moment si particulier de la mise en terre. Je m'appelle Isabelle. En cet instant, nous pensons à vous et nous sommes auprès de vous. Pierre, permettez-moi de vous appeler Pierre. Ce poème, je l'ai choisi pour vous. Il restera de toi ce que tu as donné. Au lieu de le garder dans des coffres rouillés, il restera de toi, de ton jardin secret, une fleur oubliée qui ne s'est pas fanée. Ce que tu as donné en d'autres fleurira. Celui qui perd sa vie un jour la trouvera. Il restera de toi ce que tu as offert entre tes bras ouverts un matin de soleil. Il restera de toi ce que tu as perdu, que tu as attendu plus loin que tes réveils. Ce que tu as offert en d'autres revivra. Celui qui perd sa vie un jour la trouvera. Il restera de toi une larme tombée, un sourire germé sur les yeux de ton cœur. Il restera de toi ce que tu as semé, que tu as partagé au mendiant du bonheur. Ce que tu as semé en d'autres germera. Celui qui perd sa vie un jour la trouvera. Pierre, partez en paix.
Madame X, vous avez été retrouvée le 30 juillet 2021 vers 19h au terminus de la ligne T3A, porte de Vincennes, et vous êtes décédée à l'hôpital de la Croix-Saint-Simon. Vous aviez environ 50 ans. Nous ne savons pas votre nom, aucun instant de votre vie. J'espère qu'un jour, l'on pourra mettre votre nom sur votre tombe. Mais nous ne voulons pas que vous partiez sans un adieu. Nous voulons vous dire au revoir au nom de tous les êtres que vous avez rencontrés durant votre vie, avec qui vous avez ri ou pleuré. Isabelle et moi-même, au nom du collectif des morts de la rue, avec le collège des services funéraires, venons dans ce cimetière de Thiers vous rendre un dernier hommage. Adieu, Madame X, partez en paix. Je vais vous lire un poème de Charles Baudelaire. À une passante. La rue assourdissante autour de moi hurlait. Longue masse en grand deuil, douleur majestueuse, une femme passa, d'une main fastueuse, soulevant, balançant le feston et l'ourlet. Agile et noble, avec sa jambe de statue, moi je buvais, crispé comme un extravagant, dans son œil, ciel livide où germe l'ouragan, la douleur qui fascine et le plaisir qui tue. Un éclair, puis la nuit, fugitive beauté dont le regard m'a fait soudainement renaître. Ne te verrai-je plus que dans l'éternité ? Ailleurs, bien loin d'ici, trop tard, jamais peut-être. Car j'ignore où tu fuis, tu ne sais où je vais. Ô toi que j'eusse aimé, ô toi qui le savais. Au revoir, Madame X.
Madame Kim Nouli, vous êtes née le 7 avril 1932 à Kampot, au Cambodge, et vous êtes décédée le 18 juillet 2021 à Paris. Vous viviez 38 rue des Haies dans le 20e arrondissement de Paris. Vous étiez entourée d'un couple franco-cambodgien qui vous a aidé pendant votre maladie. Ils sont désolés, ils ne peuvent être présents aujourd'hui auprès de vous. Soyez sûrs qu'ils pensent à vous en cet instant. Je ne sais rien de vous, madame, si ce n'est que vous étiez croyante et que vous apparteniez à l'église cambodgienne. Je m'appelle Isabelle et aujourd'hui je suis là pour vous avec Marianne du collectif des morts de la rue, avec le collège des services des pompes funèbres, pour vous accompagner en ce moment si particulier de la mise en terre. Pour vous dire que nous pensons à vous, que nous sommes auprès de vous, que vous n'êtes pas seule, que nous sommes là pour vous rendre un dernier hommage. Kim, permettez-moi de vous appeler Kim. J'ai recherché un poème en cambodgien pour honorer vos origines. Néanmoins, je n'ai trouvé que des citations. Pour vous rendre hommage, j'ai choisi cette citation. « Tout est savoureux à celui qui a faim. Rien n'est laid à celui qui aime. » J'y ajoute ce poème que j'ai choisi rien que pour vous. Quelqu'un meurt et c'est comme des pas qui s'arrêtent. Mais si c'était un départ pour un nouveau voyage. Quelqu'un meurt et c'est comme une porte qui claque. Mais si c'était un passage s'ouvrant sur d'autres paysages. Quelqu'un meurt et c'est comme un arbre qui tombe. Mais si c'était une graine germant dans une terre nouvelle. Quelqu'un meurt et c'est comme un silence qui hurle. Mais s'il nous aidait à entendre la fragile musique de la vie. Kim, partez en paix.
Monsieur Jacques-Claude Morel, vous êtes né le 20 août 1944 à Paris 6e et vous êtes décédé le 16 août 2021 à Paris 13e à l'âge de 76 ans. Vous habitiez au 107 rue Chevaleret à Paris 13e. Cher Jackie, nous ne connaissons de vous que ces deux dates. Nous ignorons ce qui vous a fait vivre, si vous avez aimé votre vie, quel était votre métier, vos passions, vos activités. Avez-vous eu une compagne, des enfants, des amis? Nous ne le savons pas malheureusement. Mais nous ne voulons pas que vous partiez sans un adieu. Nous voulons vous dire au revoir au nom de tous les êtres que vous avez rencontrés durant votre vie, avec qui vous avez ri ou pleuré. Isabelle et moi-même, au nom du collectif des morts de la rue, avec le collège des services funéraires, venons dans ce cimetière de Thiers vous rendre un dernier hommage. Adieu Jackie, partez en paix. Je vais vous lire un poème de François de Cormières. Voilà ce que l'homme a pensé cette nuit. Est-ce qu'on aura le temps de devenir des souvenirs oubliés ? L'homme s'est levé pour noter la phrase au dos d'un ticket de caisse laissé sur la table du studio. Au moment d'écrire le mot « souvenir », il a hésité entre pluriel et singulier. Il a laissé pluriel. L'homme a vu la lumière du jour monter doucement en haut du volet. Couché, il a attendu qu'elle devienne vive, presque jaune, un trait en travers du lit. Il avait fait un rêve dans la nuit. Il s'était revu près de la rivière 40 ans plus tôt avec ceux qu'il aimait. Il avait complètement oublié ces instants-là. L'homme pense à tout ce qui s'est effacé, à ce qui revient, à ce qui ne reviendra jamais. Il se tourne vers celle qui dort près de lui et il pense. Est-ce qu'on aura le temps de devenir des souvenirs oubliés ? Au revoir, Jackie.
Si vous avez aimé cette rencontre, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux préférés. Plus nous serons nombreux à en profiter, plus ce podcast aura de sens. Et ça a l'air de rien, mais en donnant 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur votre plateforme d'écoute et en donnant un avis, ça aide à le faire connaître. Vous pouvez aussi retrouver tous les épisodes sur le site ainsivalavie.fr et vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. À très bientôt !